RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Drapeau et vêtements traditionnels de sortie hier dans le centre-ville d'Amman.
Des milliers de manifestants jordaniens ont dit non au projet du président américain Donald Trump. Il veut transférer des centaines de milliers d'habitants de Gaza vers des pays voisins, notamment la Jordanie, où 40% de la population est d'origine palestinienne. Dans ce journal également, l'offensive du M23 et de ses alliés qui continue dans le sud Kivu. La Russie qui revendique la prise d'une ville clé de l'Est ukrainien, la Russie dont les Pays-Baltes se débranchent ce week-end pour rejoindre le système électrique européen. Et puis on parlera aussi de l'inquiétude des musiciens qui alertent sur les dangers que représentent les intelligences artificielles génératives dans leur secteur. Il s'appelle Or Levi, Eli Sharabi et Oad Ben-Ami. Ils sont israéliens pour les deux premiers, israélo-allemands pour le dernier. Et ils doivent quitter Gaza aujourd'hui après 16 mois de captivité aux mains du Hamas.
Des libérations d'otages contre celles de 183 prisonniers palestiniens.
Oui, c'est le cinquième échange du genre depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans l'enclave il y a près de 3 semaines maintenant. Un nouvel échange que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou suivra depuis les États-Unis. Il y est en visite depuis lundi. Moment choisi par Washington pour annoncer une vente d'armes à Israël pour un montant de plus de 7 milliards de dollars. Ça comprend notamment des bombes, des munitions et des missiles. Et puis il y a aussi cette idée, ce projet avancé par Donald Trump il y a quelques jours, une prise de contrôle américaine de la bande de Gaza, accompagnée d'un déplacement de la population, notamment vers l'Égypte et la Jordanie. Et en Jordanie, justement, des milliers de personnes ont exprimé hier leur refus de ce plan du président américain. Un reportage dans le centre-ville d'Amman de notre correspondant Mohamed Erami.
Sous un ciel gris, la rue animée de Swaifiyeh à Amman est devenue le théâtre d'une manifestation de taille. Des milliers de Jordaniens se sont rassemblés pour exprimer leur colère et leur inquiétude face au projet de Donald Trump de déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. L'idée de transformer le royaume hachémite en une patrie alternative pour les Palestiniens est inacceptable pour Ahmed et Joudia, rencontrés dans la foule.
La Jordanie est une ligne rouge. La Palestine est une ligne rouge. Et les lieux saints islamiques sont également une ligne rouge.
Nous sommes venus aujourd'hui pour affirmer notre soutien au roi Abdallah II et rejeter l'idée d'une patrie alternative. La Palestine pour les Palestiniens et la Jordanie pour les Jordaniens.
La position officielle de la Jordanie est pourtant claire depuis le début de la guerre à Gaza. Le projet de déplacer les Gazaouis vers la Jordanie représente une véritable déclaration de guerre avec Israël, comme l'a indiqué le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi.
Le déplacement massif ou forcé de Palestiniens vers la Jordanie, nous y ferons face avec toutes nos capacités. Pour la Jordanie, cela équivaut à une déclaration de guerre.
Selon les chiffres officiels, 40% des habitants de la Jordanie, qui compte 11 millions d'habitants, sont d'origine palestinienne, la majorité d'entre eux étant venus en Jordanie lors de la Nakba et de la Naksa palestinienne. Mohamed Erami, Amman, RFI.
Et autre idée signée Donald Trump, il l'a exprimée il y a quelques heures sur les réseaux sociaux, supprimer purement et simplement l'USAID, l'agence américaine pour le développement international.
Agence qui soutient plusieurs millions de personnes à travers le monde, notamment en termes d'éducation et de santé. Le président dénonce, je cite, la corruption qui y règne. Depuis quelques jours déjà, la nouvelle administration américaine s'est lancée dans un démantèlement de l'agence, placée sous la tutelle du secrétaire d'État Marco Rubio. Son siège à Washington est désormais inaccessible et la quasi-totalité de ses employés sont placés en congé administratif. C'est l'une des pires et plus coûteuses bourdes de politique étrangère de l'histoire américaine, réagit l'ancienne chef de l'USAID, Samantha Power, dans une tribune au New York Times. Mais en ce qui concerne ces décisions, Donald Trump n'est plus à une polémique près. Elle s'enchaîne depuis son retour à la Maison Blanche. Autre exemple, la nomination du nouvel ambassadeur américain en Pologne, Tom Rose, podcasteur ultra-conservateur. Alors si à Varsovie, l'opposition nationaliste jubile, la majorité du premier ministre Donald Tusk, elle, s'inquiète. Il faut dire que les points de divergence ne manquent pas, Adrien Sarlat.
Homme d'affaires, éditorialiste conservateur, juif orthodoxe et ancien rédacteur en chef du Jerusalem Post, le CV de Thomas Rose n'a rien de consensuel. Celui qui murmurait à l'oreille du vice-président Mike Pence lors du premier mandat de Donald Trump est surtout connu en Pologne pour ses louanges à l'égard du président Andrzej Duda et ses critiques acerbes envers le gouvernement de Donald Tusk. Il avait notamment désapprouvé la dépolitisation à marche forcée des médias publics polonais ou encore la menace d'arrêter Benjamin Netanyahou en vertu du mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. La nomination de Thomas Rose et ses prises de position pro-israéliennes assumées fait craindre à la Pologne une pression indirecte de l'État hébreu, avec en ligne de mire la question des terres non héritées, des territoires polonais qui appartenaient à des juifs tués lors de l'Holocauste et qu'Israël revendique avec l'appui des États-Unis. Le différend empoisonne les relations polono-israéliennes et pourrait coûter très cher à Varsovie en termes de compensation. Mais pour l'instant, le gouvernement polonais n'a pas encore réagi à l'arrivée de cet ambassadeur au profil atypique, sur lequel Donald Trump compte, selon ses mots, pour toujours faire passer les intérêts américains en premier. Adrien Sarla, Varsovie. RFI.
Et puis ces deux autres décrets signés par Donald Trump.
Alors il annonce retirer le droit de son prédécesseur Joe Biden à accéder à des renseignements classés confidentiels, une sorte de retour à l'envoyeur puisque Biden avait fait la même chose lorsqu'il lui avait lui-même succédé en 2020. Et puis l'actuel président américain annonce également des sanctions contre l'Afrique du Sud, plus d'aide ou d'assistance américaine, en cause une loi sur l'expropriation jugée discriminatoire par Donald Trump envers cette loi, les fermiers blancs. L'Afrique du Sud ne se laissera pas intimider, a prévenu hier le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans un discours sur l'état de la nation.
8h06 à Dar es Salaam en Tanzanie, où s'est ouvert hier un sommet conjoint de l'EAC et de la SADC.
La communauté des États d'Afrique de l'Est et celle de développement de l'Afrique australe. Objectif, trouver une issue au conflit en cours dans l'Est de la RDC. Hier, ce sont les ministres qui discutaient. Aujourd'hui, place au président. Ceux de la RDC et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, sont censés participer. La présidence congolaise a déjà fixé ses conditions, un cessez-le-feu immédiat, le retrait du M23 et des forces rwandaises du territoire congolais, la réouverture de l'aéroport de Goma, mais aussi la rétrocession de la ville aux autorités légitimes, ainsi que la condamnation du Rwanda. En attendant, le M23 poursuit son offensive dans la province du Sud Kivu, provoquant d'importants déplacements de population, notamment dans le territoire de Kalehe. Alors hier, le commandant militaire de la zone a tenté de rassurer la population. À Kinshasa, Alexandra Brangeon.
Dans un communiqué, le général pacifique Masunzu assure avoir effectué personnellement, dit-il, une tournée sur toutes les lignes de front ce jeudi. Le commandant de la 3e zone de défense ajoute s'être même rendu à Ioussi, à quelques kilomètres au nord de Calais-Centre, et assure que l'armée congolaise est prête. Une mise au point qui se veut rassurante, alors que la ligne de front entre les rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise et l'armée congolaise et ses alliés se déplace peu à peu en direction du sud sur l'axe menant vers Bukavu. Ces derniers jours, des combats à une dizaine de kilomètres au nord de Calais-Centre, chef-lieu de ce territoire, ont provoqué d'importants mouvements de population en direction de Bukavu. Dans son communiqué, le général Masunzu appelle la population au calme et à faire confiance en l'armée congolaise. De leur côté, plusieurs membres de la société civile ont fait part de leur inquiétude face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire dans cette zone. Alexandra Brangeon, Kinshasa, RFI.
Et toujours dans le sud Kivu, dans la ville d'Uvira, les autorités instaurent un couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de 21h à 5h du matin. Plus aucun véhicule n'est autorisé à entrer ou sortir d'Uvira après 18h.
En Ukraine, ce pourrait être l'une des plus importantes victoires de la Russie depuis un an.
À Moscou revendique la prise de la ville de Toretsk, cité minière de l'Est ukrainien. Les autorités ukrainiennes ne confirment pas officiellement pour l'instant, mais Toretsk, c'est une ville quasiment en ruine après des mois d'assaut de l'armée russe qui espère ainsi pouvoir avancer plus facilement vers Kramatorsk, à une cinquantaine de kilomètres au nord de là. Car l'avancée des Russes en Ukraine, elle est certes régulière, mais elle est lente, nous dit l'analyste géopolitique Ulrich Bouna.
On est sur une progression lente, dans un objectif finalement double, qui est d'une part d'épuiser la défense ukrainienne en espérant qu'elle craque à un moment donné, mais voilà, ça reste quand même peu probable, et l'autre objectif étant finalement de montrer une espèce d'inexorabilité finalement à l'avance russe qui d'une part démoraliserait les Occidentaux, et c'est déjà un peu le cas, et d'autre part permettrait finalement à la Russie d'arriver dans une position de force à des négociations où finalement ce serait un petit peu les Ukrainiens qui demanderaient à ce que la guerre s'arrête parce qu'ils sont en difficulté, alors que les Russes pourraient tout à fait donner l'impression de, et c'est d'ailleurs ce que tente de faire un petit peu la propagande ukrainienne, de dire finalement pour nous tout va bien, on peut mener cette guerre encore pendant des années sans aucun problème, ce qui, quand on regarde les problèmes d'hommes en Russie, notamment dans l'armée russe, et aussi finalement une économie qui plafonne en termes de production industrielle militaire, est beaucoup plus complexe que justement ce que peut laisser voir les avancées dans le Donbass.
Des propos recueillis par Anastasia Becchio. Et Donald Trump, encore lui, affirme qu'il va probablement rencontrer le président ukrainien la semaine prochaine, lui qui veut relancer les pourparlers de paix avec la Russie.
Pendant ce temps, les trois pays baltes, eux, s'affranchissent encore un peu plus de l'héritage soviétique.
À 35 5 ans après leur indépendance, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie doivent ce week-end rejoindre le système électronique continental européen. À Vilnius, capitale lituanienne, correspondance de Marielle Vituro.
Désormais, la Russie ne pourra plus utiliser les ressources énergétiques pour faire pression sur les pays baltes. Techniquement, cette synchronisation est une affaire de fréquence et de régulation. Via Pakalkaite est une analyste indépendante, elle file la métaphore musicale.
On peut comparer la situation à deux orchestres jouant la même musique. Chaque pays européen a son propre chef qui donne le rythme. Dans l'orchestre russe, la Russie est l'unique chef d'orchestre. Les pays baltes vont passer d'un orchestre à l'autre pour réguler la fréquence.
Les trois pays baltes se préparent à cette synchronisation depuis 2007. Des aménagements ont été nécessaires. Reinis Aboltinš, expert énergie à la Commission des services publics, en Lettonie.
Il a fallu améliorer les sites de production existants en augmentant leur capacité de production, mais aussi créer de nouvelles connexions électriques.
Par exemple, il existe désormais un câble électrique sous-marin entre la Suède et la Lituanie depuis 2015, et plus récemment, une connexion terrestre entre la Lituanie et la Pologne. Tout est prêt, annoncent les autorités. Certaines craintes demeurent pourtant. En Estonie, les médias ont rapporté que les achats de générateurs avaient fortement augmenté par crainte de panne massive. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Et puis, J-2 avant le début à Paris du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Ça commence donc lundi.
Ah mais avant cela, Julien, un week-end culturel, nous dit-on, sur les questions que posent les intelligences artificielles génératives, notamment dans le domaine de la culture. Ce sera évoqué aujourd'hui lors de débats à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, où RFI s'est installé pour des émissions et magazines justement consacrés à l'intelligence artificielle. Ce sera notamment le cas d'Echo d'ici, Echo d'ailleurs, à 10h10 temps universel, et puis à 16h10 votre magazine Tous les cinémas du monde pour parler de l'IA dans le cinéma. Pour ce qui est du secteur de l'industrie musicale, là aussi, les artistes sont de plus en plus inquiets de l'arrivée des intelligences artificielles, Olivier Roger.
Ce que vous entendez, c'est un morceau créé en quelques clics par la rédaction de RFI sur une application d'intelligence artificielle gratuite. Certes, il ne va pas révolutionner l'art, mais cet instru, aussi médiocre soit-il, met en lumière une tendance croissante dans l'industrie musicale, les faux morceaux générés par l'IA. Il y en a des dizaines de milliers qui se créent chaque jour et les plateformes de diffusion musicale sont confrontées à des fraudes massives. Aurélien Hérault, chef de l'innovation chez Deezer, plateforme musicale franco-américaine.
Je pense que la crainte des créateurs se situent sur ce secteur. Est-ce que l'AI va industrialiser la fraude, en fait? Est-ce que le fait qu'on puisse, en quelques clics, créer des morceaux, et puis avec un système de bot, générer des écoutes, est-ce que ça va les capturer de la valeur? Et c'est pour ça que nous, d'un côté, il faut qu'on soit capable d'identifier le contenu, et de l'autre, mettre en place des systèmes anti-fraude aussi, qui vont analyser les types d'écoutes.
Fausse musique, faux auditeurs, mais vrais revenus. Deezer a décidé de combattre ces dérives en mettant en place des outils informatiques, mais aussi en augmentant la part versée aux musiciens. Le but est de changer le partage de la valeur, afin qu'il ne soit plus centré sur le marché, mais d'abord sur les artistes.
Olivier Roger, pour refermer ce journal RFI Matin, c'est parti avec vous, Julien Coquelorem.
Merci Gaëtan Plenel. Samedi 8 février 2025, bienvenue à vous, RFI Matin, 3 heures d'information et la suite du sommet en Tanzanie consacré à la situation dans l'est de la RDC, alors que Kinshasa demande un cessez-le-feu immédiat et le retrait du M23 et des troupes rwandaises. Paul Kagame et Félix Tshisekedi sont censés participer à la rencontre des dirigeants. Aujourd'hui, on fait le point dans toutes nos éditions, la prochaine et dans moins de 20 minutes. L'actualité ce matin, c'est aussi le cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui tient, malgré les propos incendiaires de Donald Trump cette semaine et les craintes qu'il ne mette en danger l'accord entre Israël et le Hamas. 3 otages israéliens et 183 prisonniers palestiniens doivent être à nouveau libérés aujourd'hui. On en parle avec Michel Paul en direct de Jérusalem à 6h, temps universel. Et puis c'est un journaliste franco-afghan qui a connu les geôles des talibans pendant 9 mois en 2023. Avant cela, il avait déjà pris tous les risques pour couvrir fin 2022 le mouvement Femme, Vie, Liberté en Iran. Seul journaliste européen à avoir pu le documenter, Mortaza Behboudi vient de publier un livre pour raconter son infiltration au cœur de la révolte iranienne. Il sera notre grand invité international en studio dans une heure. Et c'était il y a 2 mois, jour pour jour, aux petites heures du matin, les premiers échos et les premières images de la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Au terme de l'offensive express de 12 jours des rebelles dirigés par le groupe HTS, la fin de plus de 50 ans de dictature et de 13 ans de guerre du régime contre son propre peuple. 13 ans de guerre, plus de 500 000 morts qui ont laissé un pays exsangue et des traces qui menacent toujours le peuple syrien. On compte aujourd'hui dans le pays quelque 300 000 explosifs et mines antipersonnelles. Et selon l'organisation internationale AoTrust, elles ont déjà tué au moins 144 personnes depuis la chute de Bachar al-Assad. Il faut donc déminer, nettoyer. Des équipes ont commencé à le faire, mais elles manquent d'effectifs et de soutien financier. Reportage dans la province de Homs de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
Chaque matin, depuis deux mois et la chute du régime, le rituel d'Hassan Talfa est le même. Trouver le point de localisation de l'engin explosif avant d'enfiler sa tenue, un casque à visière et une veste de protection.
Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'accident nous-mêmes parce que nous sommes bien préparés.
Le risque est moins pour ces démineurs de la défense civile syrienne que pour les habitants de ce petit village. Bouadia al-Sharkia, c'est son nom, 25 km au sud de Homs, a longtemps été en proie à la guerre. Les combats entre les rebelles et le régime de Bachar al-Assad ont ici comme ailleurs laissé leurs legs, des maisons à terre, des murs criblés d'impacts de balles, des champs chargés de mines et d'engins explosifs encore actifs. Dans la région, les accidents ont tué ou blessé entre 40 et 50 personnes en deux mois, explique Abdel, l'un des démineurs.
La plupart sont des enfants. Ils pensent que ces mines sont déjouées, ils s'amusent avec et ils les font exploser.
À l'aide d'un ruban, ils balisent un champ, d'une pioche installent des panneaux de prévention. L'explosif est entouré de sacs de sable, les habitants invités à rentrer chez eux.
Allez les gars, on perd du temps, rentrez à l'intérieur s'il vous plaît, je ne peux rien faire exploser tant qu'il y a du monde dehors.
Depuis sa maison, Ouda regarde l'explosion.
J'ai peur pour mes enfants. Je m'étonne qu'il y ait encore des mines ici. Je suis revenue il y a 10 jours. Juste avant, ils ont trouvé 35 petits obus en grappe dans mon jardin. Les gars d'HTS, qu'Allah les protège, ont enlevé ces 35 obus. Et heureusement, aucune explosion ne s'est produite suite à mon arrivée.
Depuis la chute du régime, le retour d'exil des familles, la multiplication des déplacements dans le pays, les accidents se multiplient. Face à l'ampleur de la tâche, la défense civile syrienne manque de soutien. À Homs, ils sont 7 à déminer, 130 dans tout le pays à travailler. Jamais le gouvernement n'a mis en place de programme de déminage. Les nouvelles autorités ne se sont pas encore prononcées. Le problème pourtant n'est pas récent. Les accidents liés aux engins explosifs datent du début de la guerre. Mahmoud est berger. Il a perdu sa femme et son frère en 2017.
Nous étions sur un petit chemin de terre comme celui-ci. Nous allions rejoindre la route principale, mais après avoir parcouru 100 mètres, une mine a explosé sous notre voiture.
Sa jambe porte encore les marques de l'explosion.
Nous espérons que les choses s'amélioreront, que la Syrie sera totalement nettoyée. Mais malheureusement, nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé.
Armad, son neveu, intervient. Le problème est loin d'être fini, dit-il.
Mon cousin a des moutons ici. Il y a deux semaines, une mine a explosé sur son passage alors qu'il allait les faire paître. Quelques jours plus tard, c'était un petit enfant. Il a jeté une pierre sur une mine et celle-ci a explosé. Heureusement, il n'a pas été tué, mais il a été gravement blessé aux yeux.
Ici, tout le monde a une histoire à raconter, des voisins, des amis, des enfants cibles de mines encore cachées. La guerre est peut-être terminée. Ces victimes, elles, n'ont pas fini d'être comptées. Manon Chaplin, à Homs, RFI.
Et tous nos reportages en Syrie sont à retrouver sur RFI.fr. 5h18 à Abidjan et en temps universel, chaque samedi sur RFI, un coup d'œil à la une de Jeune Afrique et la prochaine présidentielle ivoirienne au menu ce matin. Florence Richard, journaliste à Jeune Afrique, est au téléphone de Catherine Potet.
À la une de Jeune Afrique, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire au mois d'octobre prochain. Jeune Afrique a décidé de faire le point sur les candidats potentiels dans le camp présidentiel alors qu'un certain nombre d'incertitudes demeurent. Florence Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de la Côte d'Ivoire au sein de la rédaction de Jeune Afrique. Parlons donc de cette élection présidentielle. La première incertitude concerne le président sortant Alassane Ouattara, qui dit lui-même ne pas avoir encore pris de décision.
Oui, en effet, à 9 mois de la prochaine élection présidentielle, il a dit devant le corps diplomatique, le 9 janvier, qu'il n'avait pas encore pris sa décision au sujet de sa candidature. Le chef de l'État entretient encore un peu plus le mystère sur son avenir politique. Il dit toutefois, il a dit devant les diplomates qu'il se portait bien, qu'il était en pleine santé et qu'il était aussi prêt à continuer à servir son pays. Alors ce discours a laissé un peu dubitatif certaines personnes dans la salle, certains diplomates. L'un d'eux a dit à Jeune Afrique que le président avait dit tout et son contraire, qu'il n'avait pas vraiment compris ce qu'il avait voulu dire, voulu signifier. Donc Alassane Ouattara continue d'entretenir le mystère. Selon ses proches, il se prononcera le plus tard possible. Et en privé, ce qu'on peut ajouter, c'est que le chef de l'État ivoirien, au pouvoir depuis 2011, assure effectivement ne pas avoir encore arrêté son choix.
Alassane Ouattara qui hésite encore donc, alors que dans son camp, les encouragements ne manquent pas.
Ah oui, depuis des mois, on voit en Côte d'Ivoire beaucoup de meetings organisés à travers le pays, des meetings dans des stades, des rencontres aussi dans des localités plus petites, des élus locaux qui se mobilisent pour que Alassane Ouattara soit candidat. D'ailleurs, suite au discours de Alassane Ouattara devant les diplomates, un ministre confiait à Jeune Afrique que selon lui, le président venait de dire qu'il était plus près d'y aller que de ne pas y aller. Car c'est véritablement ce qu'espèrent ses proches, ce qu'espèrent les membres de son gouvernement, c'est qu'Alassane Ouattara sera candidat. Selon eux, il est l'unique candidat qui puisse notamment garantir la stabilité dans la région, qui connaît de forts bouleversements sécuritaires et géopolitiques. Et donc, c'est véritablement le souhait de son camp. C'est ce que nous a aussi dit Léon Kakou Ouadja, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, interviewé dans Jeune Afrique. Selon lui aussi, Alassane Ouattara doit être le candidat de son camp.
Il y a tout de même de potentiels dauphins qui pourraient s'engager dans la course à la présidentielle.
Alors oui, Alassane Ouattara l'a dit à plusieurs reprises, il dit qu'il y a autour de lui au moins une demi-douzaine de candidats potentiels. Il le répète sans jamais citer de nom, donc c'est à nous d'essayer de trouver qui sont ces potentiels dauphins. Alors il y a effectivement le vice-président Tiémoko Méliékoné, on peut aussi penser au président de l'Assemblée nationale Adama Big Togo ou d'autres poids lourds du camp présidentiel, du RHDP, et puis il y a aussi des personnalités qui reviennent auprès d'Alassane Ouattara ces derniers temps, comme l'ancien Premier ministre Patrick Achi, qui est parti aux États-Unis comme enseignant-chercheur à Harvard, qui a pris un poste au FMI à la Banque mondiale et qui est de retour aujourd'hui auprès d'Alassane Ouattara comme conseiller.
Merci Florence Richard. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Florence Richard de Jeune Afrique avec Catherine Potet qu'on retrouve tout à l'heure. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Jusqu'où ira l'intelligence artificielle, pour le meilleur comme pour le pire ? Et comment s'y préparer au cœur des enjeux de cette semaine internationale d'action pour l'IA à Paris ? Cette question fait débat au sein même de la communauté scientifique. Les chercheurs en intelligence artificielle ne sont pas d'accord, Caroline.
Et oui, à l'image des deux pionniers de l'IA générative, le Canadien Joshua Bengio et le Français Yann Lequin, tous deux lauréats en 2018 du prix Turing, l'équivalent du Nobel en informatique pour leurs travaux précurseurs. Ces deux amis de longue date ont des visions diamétralement opposées face aux enjeux éthiques, mais aussi politiques, sociaux et économiques posés par le déferlement exponentielle des applications de l'IA générative qu'ils ont contribué à développer. Si tous deux s'accordent pour dire que nous sommes en train de changer de monde et qu'on peut désormais compter en années le moment où l'intelligence artificielle, ou plus exactement les capacités des machines, dépasseront les capacités humaines. L'un, Yann Lequin, qui dirige aujourd'hui le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook Meta, appelle à accélérer les recherches pour améliorer, je le cite dans son entretien dans Le Monde, la fiabilité des systèmes et conduire à un nouveau siècle des Lumières. Tandis que l'autre, Joshua Bengio, professeur à l'Université de Montréal, dont les travaux en IA sont les plus cités dans le monde, a décidé de s'engager pour un développement responsable de l'IA. Il présentera à Paris le premier rapport international sur la sécurité de l'intelligence artificielle, le IA Safety Report, sur le modèle des rapports du GIEC, du Comité d'experts pour le climat, qui rassemble les contributions de plus d'une centaine de chercheurs en IA dans le monde, qui ont documenté trois questions majeur. Qu'est-ce que l'IA peut et pourra faire ? Quels sont les risques associés et quelles sont les techniques d'atténuation de ces risques ? Car comme Joshua Bengio l'a précisé lors d'une rencontre jeudi dernier à l'École normale supérieure de Paris, il est encore possible et surtout indispensable de réguler les recherches et les applications de l'IA générative.
Mais peut-on vraiment réguler, voire arrêter le progrès ?
C'est précisément la question qu'il faut absolument se poser aujourd'hui, tant qu'il est temps, a souligné Joshua Bengio. Je le cite. Plus les outils de l'IA deviennent puissants, plus ils sont à la fois incroyablement utiles et démesurément dangereux. Jusqu'à quel point? Impossible de le prévoir, comme tout ce qui est nouveau. Le pire n'est jamais certain. Il ne s'agit pas de faire du catastrophisme, ni d'oublier les formidables possibilités ouvertes par l'IA dans tous les domaines de nos vies. Mais une chose est sûre, c'est que ça va vite, très vite, de manière exponentielle. D'où la nécessité, face à toutes ces incertitudes précisément, d'être prêt à toutes les éventualités et pour ce faire de se doter d'un cadre de régulation internationale. Ce qui est justement le but de ce sommet IA à Paris, faire que l'IA ne soit plus le Far West, pour reprendre les mots de Joshua Bengio, même si, quand on sait les centaines de milliards d'investissements annoncés par l'américain OpenAI et la technologie révolutionnaire du chinois DeepSeek, on peut avoir quelques doutes sur la réelle prise en compte de ce premier rapport international sur la sécurité de l'intelligence artificielle, le AI Safety Report, présenté par le professeur Joshua Bengio au sommet de Paris sur l'IA.
Jusqu'où va la science? Et Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine au programme d'Autour de la question?
Lundi, que racontent nos rêves, avec une spécialiste de la science des rêves. Et mardi, nous nous mettrons dans la tête et jusque dans le cerveau reconstitué en 3D de nos ancêtres Néandertal et Cro-Magnon.
Merci Caroline Lachowski.
RFI Matin.
Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Dufaux.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène bien connu des joueurs, et j'en fais partie, le rage quit ou rage quit pour les joueurs francophones.
Un avocat va quitter la partie.
Tout à fait. Vous savez, c'est ce moment où la frustration prend le dessus et où on claque la porte, enfin plutôt on quitte le jeu d'un coup sec, subitement, en laissant derrière soi une manette qui risque de ne plus jamais être la même. Alors qu'est-ce que le rage quit au juste? Eh bien c'est simple, c'est quand un joueur, face à un échec, une difficulté ou simplement une situation qui le met hors de lui, décide d'abandonner la partie de colère. Alors ça peut arriver dans tous les types de jeux, mais c'est particulièrement fréquent dans des jeux compétitifs en ligne où la pression de la performance et l'interaction avec d'autres joueurs peuvent vite faire monter la tension.
Mais alors pourquoi on rage quit?
En fait, les raisons sont multiples. D'abord, il y a la frustration. Quand on se sent bloqué, qu'on ne progresse pas ou qu'on perd une partie de justesse, c'est normal de ressentir de la frustration, mais parfois, cette frustration peut devenir incontrôlable et nous pousser à quitter le jeu. Ensuite, il y a la pression, parce que les jeux vidéo, surtout en ligne, peuvent être très compétitifs. La peur de perdre, de ne pas être à la hauteur, peut créer une pression énorme et nous amener à réagir de manière excessive. Enfin, il y a les autres joueurs. Évidemment, les insultes, les trolls ou simplement des comportements haineux peuvent nous mettre hors de nous et nous inciter à quitter la partie. Le rage quit, c'est un peu comme un cercle vicieux. Hein. En quittant le jeu, on ne fait qu'amplifier notre propre frustration et on risque de rater des moments intéressants. Ce qui peut en plus avoir un impact négatif sur le jeu des autres joueurs.
Mais ma meilleure ennemie, c'est toi.
Alors Jennifer, comment faire pour garder son calme?
Eh bien voici quelques conseils pour éviter de péter un câble devant son écran. Tout d'abord, eh bien tenter de prendre du recul. Quand on commence à sentir la frustration monter, il est important de prendre quelques minutes de pause. On peut se lever, aller boire un verre d'eau ou tout simplement respirer un grand coup. Ensuite, c'est bien de relativiser. Un jeu vidéo, c'est avant tout un moment de détente. Il ne faut pas se prendre la tête et se rappeler que ce n'est qu'un jeu. Il faut ensuite communiquer. Si on a un problème avec un autre joueur, eh bien il est préférable d'essayer de discuter avec lui calmement plutôt que de quitter la partie. Et si ça ne marche pas, eh bien on a toujours l'option de rendre le joueur muet pour ne plus voir ses messages. Enfin, on peut tout à fait changer de jeu. Si on sent qu'un jeu nous met trop de pression, on peut toujours essayer d'en changer. Il existe une multitude de jeux différents. Il y en a forcément un qui nous convient. Et si c'est vous qui subissez un rage quit, eh bien ne le prenez pas personnellement. C'est souvent le reflet des problèmes de l'autre joueur plutôt que le vôtre. Alors continuez à jouer et amusez-vous.
C'est promis. Bienvenue dans le game. Merci Jennifer Dufaux.
Merci Julien.
Et bientôt 5h30 en temps universel sur la radio du Monde, le journal dans moins d'une minute. A tout de suite.
Ce dimanche, sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
Que devient le travail? Le travail intellectuel? C'est la question que pose Esprit, notre revue partenaire, dans son numéro double janvier-février. Anne Dugin, sa rédactrice en chef, est avec nous.
Le drame de beaucoup de grandes organisations du travail aujourd'hui, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, c'est le sentiment qu'ont les gens d'être dépossédés des fins de leur travail.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.